Là, vous avez les pelouses. Là-bas, les terrains de cricket. Et puis ici, le bâtiment principal. Impressionnant, n'est-ce pas? Le Trinity College date de 1546. C'est une des plus vieilles universités d'Angleterre.
Oh, je vois. C'est amusant, cette vénérable institution a donc 500 ans de moins que le temple de mon village, Kumbakonam. Le temps est très relatif, n'est-ce pas?
Srinivasa Ramanujan arrive en 1914 à Cambridge. Ce jeune chercheur indien de moins de 30 ans devient en 4 ans membre de la Royal Scientific Society. Mais Ramanujan a une particularité. Il n'a aucun diplôme universitaire. Il y a quelques années, il était assistant administratif dans une petite ville près de Madras, en Inde. Il va pourtant devenir l'un des mathématiciens les plus étudiés du XXe siècle. Je suis Claire Selma Aïtou, et dans la saga des maths, je vous raconte les destins de celles et ceux qui ont fait les mathématiques d'aujourd'hui. Dans cet épisode, Ramanujan et l'intuition en mathématiques.
Tu sais que je te vois derrière le buisson.
J'arrive, maman.
La maîtresse nous a dit que tu n'étais pas allée à l'école ni hier ni aujourd'hui.
On fait plus de calculs. On fait de la grammaire, je m'ennuie.
Srinivasa Ramanujan, qui est appelé simplement Ramanujan, naît dans le sud de l'Inde en 1887. À cette époque, l'Inde est une colonie anglaise. La reine d'Angleterre, Victoria, est impératrice des Indes.
Victoria, c'est la formidable histoire d'une reine impératrice qui règne sur plus d'un quart de la population mondiale.
La société indienne est divisée en différentes catégories sociales qu'on appelle des castes. Si on devait se représenter ces catégories sous la forme d'une pyramide, tout en bas, il y aurait les intouchables, des communautés très pauvres, et en haut, les brahmanes, qui sont souvent à des postes de pouvoir. Ramanujan fait partie de ceux-là. Mais depuis quelques années, sa famille est en difficulté. Son père travaille dans un magasin de vêtements, et sa mère fait des petits boulots, puis chante dans un temple dédié au dieu Vishnu. Les parents de Ramanujan mettent beaucoup d'attentes en leur fils et sa capacité à obtenir une bonne situation. Mais Ramanujan a une relation compliquée à l'école. Il sèche souvent les cours et pose des questions décalées à ses professeurs.
Maîtresse, on est à quelle distance des nuages?
Ramanujan, ça n'est pas le sujet.
Vous savez pas? C'est bizarre, vous êtes allé à l'école pourtant. Et vous diriez qu'il y a plus de fourmis ou de singes sur Terre?
Ramanujan, tu sors!
Sa scolarité est chaotique. De l'école buissonnière au collège, il devient un élève modèle au lycée où il récolte de nombreux prix. Puis les choses se compliquent de nouveau à l'entrée à l'université. À la faculté, son souhait aurait été de ne faire que des mathématiques. Mais il est obligé de faire également du sanskrit, de l'anglais, et il échoue à ses examens. Lui, qui ne vivait que grâce à sa bourse universitaire, elle lui est supprimée.
Un échec, c'est rien. Je vais travailler plus dur, voilà tout. Et je vivrai sur mes économies.
Il tente une nouvelle fois l'examen en candidat libre. Nouvel échec. À 20 ans, il n'a plus de revenus, plus de logement, plus de perspectives. Il est perdu. Il fugue. Il part vivre au bord de la mer. On ne sait pas vraiment comment il survit. Ses parents n'ont plus de nouvelles. Tout le monde est très inquiet. Et puis un beau jour, il réapparaît devant le temple où chante sa mère.
Mon garçon, que vas-tu devenir?
Je ne sais pas. Je crois que je vais faire des mathématiques.
Grand Dieu, viens prier avec moi.
Ramanujan tentera 4 fois de valider sa première année d'études, sans succès. Son entourage, sauf sa mère, le considère comme un raté. Pourtant, il continue d'étudier les mathématiques de son côté, en solitaire. Ramanujan lit tout ce qu'il trouve, manuels, articles, et constitue ainsi sa propre culture mathématique de briques et de brocs. Il passe ses nuits à noircir de petits carnets de formules et la journée à chercher du travail. Il toque à des centaines de portes jusqu'à ce que l'une d'entre elles s'ouvre.
J'ai lu attentivement vos propositions mathématiques. Elles sont peu orthodoxes, mais très créatives. Quel est votre cursus ?
Aucun, monsieur.
Pardon ?
Je n'ai aucun diplôme. Mais je ne vous demande pas un poste de mathématicien. En fait, n'importe quel poste conviendrait. Administration, comptabilité, ménage, vraiment, je ferai tout.
Ramanujan devient assistant comptable à la Trésorerie Générale de Madras. Il remplit des fiches de dépenses, calcule des taxes. À vrai dire, ce travail répétitif lui convient, car ses idées continuent d'affluer. Il s'intéresse aux nombres premiers, ces nombres qui ne sont divisibles que par eux-mêmes. Il se demande comment les nombres premiers sont répartis, quelles sont leurs propriétés, comment ils se comportent.
Oh, bonjour, monsieur Seth.
Madame 281, que me vaut ce plaisir ?
On peut dire qu'il vit un peu dans son monde. Ses carnets sont remplis de formules. Un ami le convainc de les montrer aux mathématiciens du cercle mathématique de Madras. La plupart d'entre eux le prennent pour un fou. Mais un jour, le mathématicien Ramachandra Rao le rencontre. Et persuadé que ce garçon un peu bizarre est vraiment brillant, il décide de lui verser une bourse de 25 roupies par mois, soit environ 100 euros. C'est très peu. Mais pour Ramanujan, c'est un petit miracle. Bien que très pauvre, il peut enfin se consacrer aux mathématiques. Il poursuit ses recherches et continue, avec l'aide de Rao, à écrire à d'autres mathématiciens. Et c'est ainsi qu'en 1914, il reçoit cette lettre.
Cambridge, le 8 février 1913. Votre lettre m'a pris de court. J'ai, durant de longues semaines, pensé qu'il s'agissait d'une blague de l'un de mes collègues. Mais maintenant, j'en suis convaincu. Personne n'aurait assez d'imagination pour inventer autant de formules. Si vous avez d'autres travaux, envoyez-les. Hardy.
Ramanujan est sous le choc. Hardy est l'un des mathématiciens les plus célèbres d'Angleterre, spécialiste de la théorie des nombres. Avant même qu'il n'ait le temps de lui répondre, Hardy lui écrit de nouveau.
Venez à Cambridge. L'université prendra en charge votre voyage et votre séjour.
Ramanujan hésite un instant. Il liste les points négatifs.
1. Je n'ai aucun attrait pour l'Angleterre. 2. Ma religion m'interdit de voyager dans des terres non hindoues. 3. Je serai loin de ma mère et de mes amis.
Et les points positifs ?
En fait, il n'y en a qu'un. Je vais faire des mathématiques.
C'est décidé. Il embarque. À Cambridge, son arrivée est remarquée. Cette institution élitiste regarde avec scepticisme l'arrivée de cet Indien autodidacte. Ramanujan discute longuement avec Hardy, qui passe en revue ses carnets. Certaines conjectures sont fausses, d'autres incertaines, mais d'autres encore vraiment mystérieuses. Tous ces raisonnements sont originaux.
La seule chose qu'il vous manque, c'est la preuve.
La preuve ?
Le développement pas à pas de votre idée. Sinon, c'est juste une idée. La science ne se construit pas sur des idées.
Les conjectures de Ramanujan sont un savant mélange de travail et d'intuition. N'ayant pas reçu d'éducation formelle en mathématiques, il ne suit pas les conventions d'usage. Aujourd'hui, on appelle cela la notation Ramanujan. À l'époque, les mathématiciens anglais appellent ça...
Du charabia, Hardy. C'est du charabia, ces carnets.
Et moi, je te dis que ces carnets contiennent plus de mathématiques que tous les travaux du département réunis.
Qu'importe, Ramanujan écrit. En collaboration avec Hardy, il rédige un article intitulé « Les équations modulaires et l'approximation de pi » afin de calculer les décimales de pi avec une toute nouvelle approche. Plus tard, il revient au nombre premier et apporte une preuve à un problème très complexe appelé le postulat de Bertrand. En 1916, il obtient, sans jamais avoir passé d'examen, le titre de docteur en mathématiques du Trinity College. Hardy lit tous ses articles et continue à lui répéter la même phrase à chaque fois qu'il lui présente une nouvelle formule.
Prouve-le !
Ramanujan aurait sans doute publié davantage si la Première Guerre mondiale n'avait pas rattrapé l'Angleterre. Deux ans auparavant, la guerre est déclarée sur le continent européen. L'Allemagne et ses alliés font face à l'Angleterre et la France. Certains mathématiciens sont appelés au front, dont beaucoup ne reviendront pas. À Cambridge, les restrictions se font sentir.
Aujourd'hui, c'est ragoût de porc ou tarte au foie.
Sans viande, qu'est-ce que vous avez?
Alors là, des petits pois.
Comme hier. Mais oui, je vais prendre ça alors.
Désolé, mon petit.
Ramanujan est végétarien et il est habitué à une nourriture variée à base de lentilles, de riz et de fruits. Alors il mange peu et mal. En avril 1917, Ramanujan tombe violemment malade. Il délire pendant de longues semaines.
Tu vois, si le zéro c'est l'absolue vérité, alors l'infini c'est la multitude de réalités. Si on multiplie le zéro par l'infini, on a tous les nombres possibles, tous les actes de la création.
Mais qu'est-ce que tu racontes ?
Il entre à l'hôpital, mais continue à travailler.
Si les chambres sont tristes et froides, les salles de bain sont, en revanche, très confortables. Maintenant, j'amène du papier et un stylo et je travaille là-bas.
Ramanujan sort de l'hôpital sans savoir la cause de son affliction. Il est trop faible pour vivre seul, alors il emménage chez Hardy. Mais son esprit est troublé. Ses échanges avec sa famille sont intermittents. Et malgré son doctorat, il sent qu'il ne fera sans doute jamais partie de l'institution mathématique anglaise. Il se sent complètement isolé. Alors, un jour d'hiver 1917, Ramanujan se rend à Londres et tente de se jeter sous un train.
Hardy, je crois que ce pays va finir par m'achever. Il faut que je rentre en Inde.
En 1918, la guerre est terminée, les frontières ouvrent de nouveau. Alors que le Trinity College lui propose un emploi pour 6 ans, Ramanujan décline. Sa décision est prise. Il retourne à Madras, où il intègre l'université en tant que professeur. Malheureusement, il meurt de sa maladie 1 an plus tard. Il a 32 ans. Ramanujan a marqué l'histoire des mathématiques dans des domaines variés, et notamment en théorie des nombres. Son parcours, en grande partie autodidacte, lui a donné une autre perspective mathématique. J'ai voulu en savoir plus sur la place de l'intuition et de la démonstration en mathématiques. Alors je suis allée interroger Nathalie Ailly, mathématicienne. Bonjour Nathalie.
Bonjour Claire Selma.
Ramanujan a eu l'intuition de nombreux résultats en mathématiques, de façon assez prodigieuse. Pourtant, on a entendu que ses travaux ne faisaient pas l'unanimité dans la communauté scientifique. Pourquoi ?
Tout simplement parce que les énoncés qu'il donnait, ils n'étaient pas accompagnés de preuves. Et pour qu'un résultat soit reconnu par la communauté, il suffit pas de l'affirmer. En fait, il faut vraiment donner les différentes étapes qui permettent de l'établir de façon irréfutable. Donc, quand on essaye de faire ce chemin, au fondement de ce raisonnement, on trouve ce qu'on appelle les axiomes. Alors, qu'est-ce que c'est que des axiomes ? C'est des propriétés évidentes qu'on ne peut pas démontrer. Un exemple typique d'axiome pour illustrer ça, par exemple dans le domaine de la géométrie, c'est le suivant. Si on prend 2 points, il est toujours possible de tracer une droite qui passe par ces 2 points. Alors, quand je dis ça, tout le monde le visualise, ça paraît extrêmement logique. C'est pas possible de le prouver mathématiquement. Donc, on n'a pas d'autre choix que de l'accepter sans poser de questions.
Mais alors, quand Ramanujan a l'intuition de résultats et qu'il propose à la communauté scientifique de les accepter sans les prouver, est-ce qu'il ne découvre pas des axiomes finalement ?
Alors, ce que lui, il énonce, c'est ce qu'on appelle des conjectures. Et je vais essayer de t'expliquer la différence entre les deux. Énoncer une conjecture, c'est quand une personne se contente d'affirmer un résultat mathématique dont elle pense qu'il est vrai, pour tout un tas de raisons, mais qu'elle n'a pas encore réussi à confirmer par une démonstration, ni à l'infirmer d'ailleurs. Et c'est pas qu'on ne peut pas le démontrer, c'est qu'on ne sait pas pour l'instant le démontrer. Certaines conjectures, elles existent parfois pendant des siècles avant d'être démontrées, et d'autres, elles finissent par être contredites avec des preuves qui, finalement, arrivent à la conclusion qu'elles étaient fausses. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Ramanujan, qui a été extrêmement prolifique. Il a fait plein de conjectures. Alors, il s'avère que bon nombre se sont avérées vraies, puisque par la suite, des mathématiciens, des mathématiciennes ont réussi à les prouver, mais d'autres, elles étaient incorrectes. Alors, il faut savoir que des conjectures sur lesquelles on n'a pas encore statué, qu'elles soient vraies ou fausses, il en existe plein. Vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Et par exemple, les plus célèbres, on va dire, on peut les trouver parmi les 7 problèmes du millénaire, proposés en l'an 2000 par l'Institut Clay. Et d'ailleurs, il y a un prix attaché, $1 million, pour qui arrive à soit les démontrer, soit les infirmer.
Ça donne en effet envie de se lancer dans l'aventure. Et tu disais précédemment que certaines conjectures de Ramanujan s'étaient avérées fausses. Qu'advient-il de ces conjectures fausses ? Est-ce qu'elles vont à la poubelle ou partent-elles ?
Alors oui, absolument. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque les conjectures fausses, vu qu'elles étaient fausses, elles n'ont pas vocation à rester, donc c'est bien qu'elles disparaissent. Les conjectures vraies, elles sont upgradées, c'est-à-dire elles vont passer en classe supérieure, et elles vont passer au stade de théorème. Donc, qu'est-ce que j'appelle théorème ici ? C'est un résultat mathématique important qu'on a pu démontrer à l'aide d'autres propriétés déjà établies. Exemple classique, qui va parler à tout le monde, le théorème de Pythagore, qui énonce, je le rappelle, qu'on peut calculer la longueur du troisième côté d'un triangle rectangle lorsqu'on connaît les longueurs des deux autres côtés.
On retient donc que l'intuition en mathématiques est un moteur, mais à elle seule, elle ne suffit pas à faire de la recherche en mathématiques. Merci Nathalie.
Avec plaisir.
Nathalie Haï est maîtresse de conférences en mathématiques à Sorbonne Université et titulaire d'une chaire de médiation scientifique à l'Institut universitaire de France. La saga des maths est un podcast original de France Inter. Écriture, Claire Selma Haïtou. Réalisation, Karen Dehaye.